La seiche, Sepia officinalis, est un des céphalopodes décapodes les plus communs des mers européennes, Méditerranée, Atlantique et mer du Nord. Cette espèce nectonique s'adapte assez bien à la vie en aquarium, où la présence d'un fond sableux lui rappelle son habitat naturel. Un espace suffisant et les adultes s'y reproduisent, les femelles déposant ces grappes d'œufs dénommées communément raisins de mer. Les œufs fraîchement pondus ont un diamètre de 8 à 9 mm. L'enveloppe externe noire, de consistance élastique, permet un certain balancement propice à l'élimination des déchets. Au bout de 3 semaines à 20 degrés, l'œuf est plus ventru. Son diamètre est de 15 à 16 mm. L'enveloppe distendue laisse apercevoir l'embryon dont on devine déjà la forme définitive. En agitation constante sur les œufs, les petits copépodes arpacticides, Tisbe gracilis, ne nuisent point au développement, éliminant même les déchets muqueux des œufs abortifs. L'entonnoir permet déjà à la future seiche des déplacements à l'intérieur de sa coque. Afin de permettre des observations plus précises, la membrane externe opaque de l'œuf est enlevée. Seule reste une coque transparente autour de l'embryon. Notez chez cet embryon, stade 17 environ, le développement considérable de la partie céphalique optique qui caractérise ce groupe très évolué de mollusques que sont les céphalopodes. Entre les bras se trouve le lobe de Vitellus, encore incomplètement digéré, que la seiche continuera d'assimiler avant l'éclosion. Le temps de développement séparant la ponte et l'éclosion est directement fonction de la température, environ 38 jours à 20 degrés, 3 mois à 15 degrés. Le diamètre de l'œuf a maintenant le double du diamètre d'origine. La petite seiche est prête à éclore. Reprenons en détail les différentes phases de son éclosion. Cherchant le point de moindre résistance de la coque, elle s'arc-boute en cédant au maximum des nageoires et de l'entonnoir pour essayer de perforer l'enveloppe avec sa partie postérieure. La coquille interne, le vulgaire os de seiche trouvé sur toutes les plages après la mort des adultes, ici très petite, possède un rostre calcaire qui prolonge le phragmocone. Ce rostre, véritable petit stylet, amorce la déchirure de l'enveloppe et la seiche, jouant de tous ses muscles, réussit à passer par l'orifice. Sa sortie est parfois très rapide, mais il arrive souvent qu'elle reste bloquée au cou et doive reprendre haleine avant de produire un nouvel effort pour dégager tête et bras. La seiche, qui ne mesure guère plus d'un centimètre, adopte dès la naissance la vie des adultes, sans passer par une vie planctonique comme le ferait un calmar, par exemple. L'os ou sépion lui sert de flotteur de sustentation. Grâce à un système hydropneumatique, elle en règle le volume d'azote interne et remplace ainsi en quelque sorte la vessie natatoire de poisson qui lui fait défaut. Sa nage harmonieuse tient surtout aux mouvements ondulatoires de la membrane ou nageoire latérale. Les coups d'entonnoir, véritable tuyère à réaction, et les jetés de bras contrôlent ses déplacements. Il arrive souvent qu'elle semble même marcher sur le sable en utilisant ses bras ventraux comme deux sortes de béquilles. Sa physionomie est rendue très variable par le jeu des chromatophores. Elle est de couleur claire sur fond uniforme de sable blond, car les chromatophores présentent un agrégat de tous les pigments. Au déplacement de l'opérateur, qui change la tonalité de l'environnement, elle réagit par une vague de dispersion des pigments noirs. Le frémissement qui semble parcourir la peau n'est dû qu'au déplacement intracellulaire des grains de pigments cytoplasmiques. La superposition des trois couches pigmentaires, noires internes recouvertes d'orange et de jaune, donne une coloration rouge vineux assez caractéristique chez cette sèche de même âge qui réagit différemment en analysant les longueurs d'onde de la lumière réfléchie par l'environnement. Le centre nerveux réceptionne les grandes longueurs d'onde, jaune-orange, et provoque une dispersion des trois catégories de pigments. Après avoir absorbé ce qui reste du sac vitellin, les jeunes sèches, 48 heures après l'éclosion, commencent à se nourrir. Pour remplacer les mysidacées qui probablement constituent leur nourriture principale en mer, il fallait trouver, et c'est là le point délicat de l'élevage, un crustacé qui soit suffisamment mobile pour rester attractif, de taille ne dépassant pas le centimètre, et surtout dont les récoltes soient aisées et abondantes. Les amphipodes, ici Marinogammarus marinus, très communs sous les pierres du littoral, constituent en aquarium la première étape nutritive. Les sèches les capturent en pleine nage en projetant leurs deux longs tentacules préhenseurs. En tenant l'amphipode par la face dorsale, elles évitent ainsi les coupures que pourraient produire les plaques coxales ou les griffes de ces crustacés. La croissance des petites sèches ainsi alimentées pendant 3 semaines est très rapide. Elles sont bientôt aptes à s'attaquer à d'autres proies, telles le crabe, stade jeune de Carcinus menas, qu'elles capturent de façon innée par l'arrière pour éviter les pinces et les pointes acérées des pattes thoraciques. Les mouvements des bras dorsaux, relevés verticalement, ondulants, de coloration changeante, servent de leurre pour détourner l'attention du crabe. Se jetant sur la carapace, la sèche maintient le crabe de toutes ses ventouses, tandis que la mâchoire ou bec de perroquet situé entre les bras vient croquer la partie sensible, suture, thorax, abdomen. Très rapidement, la salive, qui contient un venin toxique, agit sur les fibres nerveuses de la proie. 30 secondes suffisent pour provoquer une crispation des pattes et, au bout de quelques minutes, le crabe meurt. Il est ensuite malaxé par les muscles buccaux et digéré progressivement. Mais la capture des crabes n'étant pas toujours aisée, elle préfère alors capturer des crevettes. Ici, Palaemonetes variens. Une extension des tentacules préhenseurs et, cavalier solidement accroché au dos de la crevette, elle attend que le venin salivaire fasse son effet. Une nourriture variée, abondante, lui permettra de tripler de longueur en un mois et de s'attaquer à des proies beaucoup plus agiles, telles les poissons. Le Gobius minutus, bien maintenu entre les tentacules, ne tarde pas à mourir malgré l'énergie désespérée qu'il met dans ses détentes. Les seiches deviennent adultes au bout de 2 à 3 ans dans des conditions naturelles, ou en 8 mois à la température de 20 degrés. Alors que la coloration des jeunes était uniforme, la peau des adultes est striée. Les zébrures jaune clair, réunion des pigments noirs, étalement des jaunes et oranges, alternent avec les zébrures sombres, étalement des chromatophores noirs. Aussi évolué que l'œil humain, l'œil de la seiche, avec sa pupille en W, cerclée d'or, fonctionne sur le même principe. Le mécanisme de la respiration branchiale est celui d'une pompe aspirante et foulante avec entrée d'eau oxygénée de chaque côté du cou et rejet par l'entonnoir. Alors que les muscles latéraux, véritables clapets, ferment les orifices d'entrée. Les adultes se nourrissent comme les jeunes, uniquement de proies vivantes, en particulier de crevettes, Crangon vulgaris, dont la capture très rapide est ici ralentie 3 fois. La détente des tentacules préhenseurs est encore plus explicite sur cette image. Ses bras musclés, normalement repliés dans des poches sous-oculaires, s'allongent et peuvent atteindre en extension une longueur de 20 cm. Bien guidé dans le tir par le cône des bras, il s'accole à la crevette et la ramène très rapidement devant la bouche. Ses fouets se terminent en effet par une palette couverte de ventouses. Vu par-dessous, le lancer des bras apparaît plus nettement, et la seiche semble même prendre appui latéral sur ses 2 bras ventraux pour mieux viser. Une capture de crabe, pourtant de belle taille, n'offre plus de difficultés. Et si la prise se fait toujours par l'arrière, les ventouses des bras sont suffisamment puissantes pour l'immobiliser et permettre ainsi un repas qui s'avère rapide. La mâchoire, bec corné animé par des muscles buccaux puissants, sert au broyage, tandis que la langue, ou radula, contribue à l'ingestion des aliments. Mais bientôt, les seiches montrent une agitation, un trouble de comportement. La maturité sexuelle est atteinte et le mâle a pris sa livrée nuptiale. La peau ventrale, pauvre en chromatophores, prend cette teinte vert fluorescent due aux iridocytes, cellules situées dans le derme, à structure fine, réticulée, qui diffracte la lumière. Si les zébrures existent encore, la dispersion de tous les pigments chromatiques, orange, jaune et noir, donne aux bras cette couleur exceptionnelle. Ce mâle manifeste son désir d'accouplement. Avec ses bras ventraux, il est prêt à chasser tous ceux qui pourraient le gêner dans ses entreprises. Il vient caresser, toujours avec ses bras ventraux, une femelle qui semble consentante. Un couple est né. Ces périodes d'excitation sont entrecoupées de périodes calmes, où le mâle retrouve la coloration neutre, pigment de la tête et du dos admi-étalé. L'accouplement se fait chez Sépia en position dite tête-tête. Le mâle à gauche, que l'on reconnaît à sa livrée plus zébrée, au temps plus chaud, a saisi la femelle par la tête. Les bras dorsaux passent au-dessus des yeux et la maintiennent solidement. Les bras latéraux, deuxième paire, passent en dessous des orbites et ceinturent les bras de la femelle, limitant ainsi ses déplacements latéraux. Les bras de la troisième paire remontent de chaque côté de la tête de la femelle et s'accolent sous l'orbite. Cet accouplement peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes. En position identique, mâle en bas, femelle de face, nous constatons une certaine contraction, un effort produit par le mâle, alors que la femelle semble chercher à se libérer. Mouvement qui s'explique en vue par-dessous. Le mâle, à droite de l'écran, maintient solidement sa femelle. Suivons le déplacement du bras ventral gauche, en haut de l'écran, qui explique les spasmes dont le couple est agité. C'est en effet le bras copulateur. Avec sa partie moyenne, il vient prendre le sperme amené par l'entonnoir et l'introduit entre les bras de la femelle. Examinons la structure de ce bras copulateur, dénommé bras ectocotyle. Sa partie moyenne proximale est modifiée. À la place des ventouses rondes, normales, le bras prend une allure plissée, adaptée à la réception et au transport des spermatophores, réalisés par une pince sur cette dissection. Il est possible d'expliquer la structure et le fonctionnement de ces spermatophores par le microcinéma. Un bouchon ou ligature ferme l'extrémité et équilibre la pression interne. Dès leur sortie du tractus mâle, au contact de l'eau de mer, les spermatophores à l'étui perméable, sensibles à la pression osmotique, se débouchent et laissent s'échapper un flot, un cordon de sperme. La sortie en est régulière, limitée par les circonvolutions du tube éjaculateur. Les spermatozoïdes, de structure typique, vue à un plus fort grossissement, se dégagent bientôt de cette gelée ou spermatange. Revoyons un autre accouplement par-dessous. Le mâle, à droite, enroule son bras ectocotyle, en haut de l'écran, autour de l'entonnoir ventral. Les spermatophores, que l'on aperçoit, sont poussés entre les bras de la femelle dans un repli buccal ou bourse copulatrice, où ils sont mis en réserve. Après plusieurs apports de spermatophores, la femelle parvient à se libérer. La ponte peut commencer de quelques heures à quelques jours après l'accouplement. Expliquons par la dissection ce qui se passe chez cette femelle. L'ovaire, occupant toute la partie postérieure, égrène ses ovocytes au fur et à mesure de leur maturation. L'ovocyte mûr, lobe ovoïde de 5 à 7 mm de diamètre, s'engage dans le tractus. Libéré à proximité des glandes nidamentaires principales et accessoires, Il s'entoure d'une coque, enveloppe muqueuse colorée d'un léger coup d'encre, et s'engage alors dans l'entonnoir. Ici, poussé par la pince, l'œuf sort de la cavité palléale. En vue par-dessous, voyons comment la sèche procède pour pondre. Tout d'abord, elle engage son entonnoir porteur de l'œuf entre ses bras et le maintient dans cette position. On devine la coloration noire de la coque entre les ventouses des bras ventraux. Puis elle dégage son entonnoir et expulse les déchets de mélanine n'ayant point servi à la coloration. Enfin, elle se libère de son œuf par la ponte. Que s'est-il passé entre les bras? L'œuf, maintenu si longtemps, est fécondé au passage. On aperçoit d'ailleurs les spermatophores mis en réserve dans le repli buccal, dont le détail apparaît mieux sur ce plan fixe. En dessous des mâchoires, autour du lobe buccal, ces replis servent en effet à emmagasiner les spermatozoïdes. La fécondation de l'ovocyte se trouve donc réalisée par passage au travers des membranes. Reprenons notre femelle en vue ventrale. L'entonnoir laisse s'échapper l'encre en surplus et la sèche, les bras tendus, étirés au maximum vers l'avant, pointés vers une place libre, va déposer son œuf. La femelle pond ainsi environ toutes les deux minutes un œuf qu'elle accroche méticuleusement, et elle est capable d'en déposer ainsi entre 150 et 500. Elle s'assure par un jet d'eau de la place disponible et vient entrecroiser ses tentacules comme des doigts entrelacés pour nouer l'œuf sur son support. Au moment de la ponte, les deux attaches terminales muqueuses qui prolongent la membrane de l'œuf se collent l'une à l'autre par simple contact. Cette boucle se solidifie très rapidement et ce sont de véritables ligatures élastiques qui maintiennent les œufs. Après la ponte, la femelle épuisée se désintéresse totalement du sort de ses œufs. Et si quelque temps après les adultes ne tardent pas à mourir, dans un mois, une nouvelle génération sera prête à éclore.